Bonjour et bienvenue sur La Voie Verte, le podcast qui vous accompagne sur le chemin d'une vie plus verte. Nous sommes Julie et Laetitia, les créatrices de ce podcast. Potager, plantes vertes, jardinage urbain, compost, cueillette sauvage. Dans chaque épisode, nous abordons un thème lié au monde végétal avec un ou une invitée. À travers ces interviews, nous vous donnons des conseils pratiques pour prendre soin de vos plantes et explorons ensemble le monde fascinant de la nature vivante. La Voie Verte est le podcast de Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers, que nous avons fondé toutes les deux. Ce magazine papier indépendant est dédié au jardinage, aux plantes et à la nature et sort tous les trimestres. Pour en savoir plus, direction Vert Magazine, veirmagazine.com. Allez hop, c'est parti pour la classe verte!
Bonjour, aujourd'hui j'accueille Victoria du blog Mango & Salt pour parler des arbres fruitiers sur son balcon. Victoria partage ses découvertes éco-responsables et bien-être depuis longtemps, et le jardinage en fait entièrement partie. Chez elle, à Amsterdam, on trouve de nombreuses plantes vertes, mais surtout un balcon rempli de fleurs, de légumes et, plus surprenant, de fruits. Alors que le néo-jardinier se limite souvent aux fraisiers, Victoria a plusieurs citronniers, des calamondins, un pommier ou encore un figuier. J'ai donc voulu partir à sa rencontre pour vous donner envie de cultiver votre propre salade de fruits en ville. Bonjour Victoria, merci d'être là aujourd'hui dans cet épisode de La Voie Verte.
Bonjour Julie, merci beaucoup de m'avoir invitée, c'est un honneur.
Avec grand plaisir. Tout d'abord, on va peut-être te laisser te présenter pour ceux, alors très rares, je pense, qui ne te connaîtraient pas et qui d'ailleurs ne liraient pas Vert Magazine, puisque tu écris dans chaque numéro autour du sujet des plantes vertes. Mais voilà, une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas.
Eh bien, je m'appelle Victoria, j'ai 32 ans. Je viens de Paris, mais je vis à Amsterdam depuis 6 ans maintenant. Je suis blogueuse et créatrice de contenu globalement depuis 2010 sur mon blog Mango & Salt. Et maintenant sur Instagram et compagnie, bien sûr. Et je suis en fait spécialisée dans les sujets un peu dans le lifestyle green, consommation responsable, voilà, vie au naturel, une sensibilité éthique, écologique, mais d'un point de vue assez personnel, en partageant vraiment mon cheminement, mes découvertes, etc. Voilà, depuis quelques années, je suis aussi une grande passionnée de plantes, de jardinage, de plein d'autres choses aussi. J'aime beaucoup voilà, la lecture, l'Écosse. je fais de la photo argentique, je fais même un peu de musique. J'ai écrit un livre qui s'appelle Green Life aussi, aux éditions Larousse, qui un livre principalement de cuisine, mais aussi un peu de justement lifestyle un peu naturel, green, etc. Do it yourself. Et voilà, donc pas mal de petites choses.
Super. Et du coup, effectivement, tu jardines beaucoup chez toi. On aurait pu parler en fait de plein de sujets avec toi, je pense. Tu nous montres souvent tes plantes vertes, toutes tes fleurs, tes légumes sur ton balcon. Donc. Mais alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier avec toi, puisque tu cultives aussi des fruitiers. Et on va voir, c'est moins courant en milieu urbain et sur un balcon. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours cultivé en fait sur tes balcons ou est-ce que c'est assez récent ?
Alors déjà, je pense que je jardine en extérieur seulement depuis à peu près 6 ans, depuis que je suis arrivée à Amsterdam en fait. Toujours non, mais depuis que j'ai commencé, je pense, comme beaucoup de gens qui ont un balcon par des fraisiers en jardinière. Donc ça, quand même, ça fait quelques années. Et j'ai acheté aussi, quand j'ai emménagé dans notre appartement actuel, en fait, on a une terrasse rooftop d'une vingtaine de mètres carrés. Donc quand on s'est installé, un peu sur un coup de tête, j'ai acheté un figuier. Donc voilà, ce figuier, il est là quand même depuis un certain temps, mais à part ça, mes fruitiers, ça date plutôt des 2-3 dernières années, je pense, parce que avant, je pense que je savais même pas que c'était vraiment possible de cultiver ce genre de plantes.
Ouais, mais justement, on va en parler, parce que comme tu disais, c'est souvent des fraises, donc on cultive, même dans un jardin, en fait, quand on est un peu débutant, voilà, les fraisiers, ça pousse bien, ça revient, c'est vivace, c'est top. Mais c'est vrai qu'on cultive moins d'autres arbres fruitiers. Et chez toi, on trouve quand même plusieurs citronniers, un pommier, donc un figuier, tu viens de nous dire. Pour toi, c'était une évidence d'en faire plusieurs et des gros arbres. Alors, tu viens de nous dire, c'est pas toutes les variétés. On va parler de variétés, justement. Mais est-ce que pour toi, c'était normal d'aller un peu explorer d'autres choses, surtout sur ton balcon? On reviendra aussi au fait que t'es pas dans le même climat que tout le monde en France, évidemment.
De manière générale, mais je suis comme ça de manière générale avec toutes les plantes. En fait, j'ai tendance à rechercher et cultiver des variétés un peu originales. Même, je fais la même chose pour mon potager, pour mes plantes vertes aussi. J'aime bien, j'ai un petit côté nerd, j'aime bien les trucs un peu spéciaux botaniques. Mais aussi, je crois que c'est juste, je sais pas, je suis d'un naturel assez optimiste. En fait, j'aime bien tester des choses, tu vois, même voilà, des types d'arbres fruitiers, par exemple, qui ne sont pas hyper courants sur un balcon. Bah, moi, ça me fait pas peur, quoi. Je me dis pas forcément, en tout cas, une fois que j'ai su que c'était possible, je me suis dit, bah, tentons, parce que je sais pas, quand j'ai envie d'avoir d'avoir des fruits ou des plantes en particulier, je me lance, quoi, tout simplement. Donc, c'est juste ça, j'avais envie de tester, quoi.
Bah super. Est-ce qu'il y a un avantage pour toi par rapport à d'autres plantes potagères et fleurs, par exemple ? Est-ce qu'il y a... Tu trouves ça plus simple, plus compliqué ?
Je pense que c'est presque plus simple que pas mal de plantes. Enfin, je pense par exemple aux tomates, etc. Parce que, je sais pas, peut-être parce que c'est un arbuste, c'est quand même assez résistant. En plus, il y a plein de variétés qui sont rustiques, tu vois. En fait, il y a vraiment rien à faire. On les laisse dehors tout l'hiver. Enfin bon, il y a vraiment pas énormément de soins nécessaires en fait sur beaucoup d'arbres fruitiers. Donc, je trouve que c'est pas, c'est vraiment pas les plantes qui me demandent le plus d'attention.
Qu'est-ce qu'on trouvera du coup cet été chez toi si on vient à Amsterdam, et on aimerait bien venir à Amsterdam évidemment.
Mais... Ah bah oui, je vous le souhaite. j'ai pas mal de petites choses du coup en fruitier. J'ai mes agrumes chéris que j'adore. Pour le coup, j'ai des variétés assez originales. J'ai un calamondin, un citronnier meilleur. C'est un type de citron qui est un peu plus petit. Il est un peu plus jaune-orangé. C'est pas vraiment le jaune très vif comme ça qu'on a sur les citrons classiques. Il a un goût aussi beaucoup plus... je trouve que ça tire un peu vers la mandarine jaune. C'est un goût un peu plus doux. Et j'ai aussi un citronnier qui est censé être une sorte de citron vert. Ça s'appelle Rang pour Lime. Mais il est orange. Enfin, la peau est orange au lieu d'être verte. Mais c'est un peu un goût de citron vert, effectivement. Après, j'ai des chouettes variétés de fraisiers aussi cette année. J'ai notamment un fraisier ananas. Ça, c'est des fraises qui sont blanches. Ça, c'est pas mal pour les oiseaux, parce que du coup, ils vont pas les picorer, parce qu'ils se rendent pas compte que c'est un fruit mûr. J'ai aussi un fraisier qui s'appelle Framberry. Je crois, c'est genre fraise framboise, un truc comme ça, qui a apparemment un goût un peu qui tire vers la framboise. Fraisier marin des bois aussi, ça, c'est toujours très bon. J'ai un framboisier, maintenant depuis quelques temps, j'ai aussi un pommier jaune à gold, et un poirier nain. Ça, c'est une nouveauté pour moi. Et puis après, j'ai aussi mes deux plus anciens arbustes, donc le figuier, c'est un figuier goutte d'or. Les figues sont assez pâles, il me semble, et ils ont une chair un peu dorée, justement. Et un pêcher nain qui s'appelle Ice Peach.
Voilà, c'est
pas mal de fruits. Oui, ça donne très bon. Il donne salade de fruits en personne.
Super. Comment tu gères du coup l'aménagement de tout ce petit monde ? Parce que bon, tu as une grande terrasse dont tu nous as dit sur toi, mais ça reste quand même une terrasse. C'est souvent des variétés qu'on imagine en plus quand même encombrant dans des grands pots qui peuvent être très lourds. D'ailleurs, on rappelle de faire attention au poids de vos contenants sur les balcons. Et d'ailleurs, je te lance sur la question des variétés naines. Tu vas nous en dire un peu plus. Tu as des arbres fruitiers qui sont donc nains en réalité.
Absolument. Et pour le coup, c'est vraiment la solution numéro un pour les petits espaces et pour la culture en pot de manière générale. C'est vrai que, en tout cas, en appartement, quand on est vraiment en hauteur ou sur un balcon, qui effectivement doit faire attention, où il faut faire attention au niveau du poids, on peut pas se permettre d'avoir plein d'arbres gigantesques. Même si on avait la place, on peut pas vraiment avoir plein d'arbres gigantesques avec des énormes pots, des centaines de litres de terreau. Enfin, c'est pas possible. En tout cas, pas ici à Amsterdam, où en plus, tu sais, les immeubles sont un peu sur l'eau, donc c'est dangereux. Enfin, il faut faire attention, quoi. Vraiment, les variétés naines ou miniatures, c'est la solution idéale. D'ailleurs, c'est ce que j'ai. Enfin, la plupart de mes arbres. Enfin, j'ai juste le fruitier. Enfin, le pardon. J'ai juste le figuier qui est un véritable arbre, donc il est plus grand, mais le reste, je n'ai que des versions naines, effectivement. Et en fait, oui, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, j'ai l'impression, ces dernières années, pour les fruiteries. Enfin, c'est très pratique, notamment pour la ville, justement. En fait, c'est donc des variétés qui sont des variétés d'arbres fruitiers classiques. Par exemple, mon pommier, c'est un pommier jaune à gold, donc c'est vraiment un type de pommier classique assez courant ici aux Pays-Bas. Mais en fait, je pense que c'est des arbustes qui sont greffés, c'est-à-dire qu'ils ont C'est une structure de branches issue d'un arbre fruitier classique qui est greffée sur un porte-greffe, une sorte de base de tronc qui est, je pense, non seulement plus ancienne, enfin plus âgée, et qui est une sorte de base justement miniaturisante, c'est-à-dire qui va avoir un système racinaire plus petit, plus restreint, et qui du coup va restreindre la croissance et la vigueur de la plante. Donc je pense que c'est comme ça que ça fonctionne en général pour les arbustes nains.
On peut trouver dans toutes les variétés de fruitiers les variétés naines ?
Oui, franchement, surtout ces dernières années, cette année, l'année dernière, dans ma jardinerie, par exemple, j'ai vu vraiment de tout. Hein. Il y a des pruniers, des cerisiers, tous les prunus en général de fruitiers, donc des pêchers, des abricotiers, j'ai vu, des pommiers, des poiriers. Ils font même des versions un peu hybrides, bizarres, où il y a, tu sais, genre trois types de pommes sur le même arbuste. Enfin, ils ont inventé toutes sortes de choses avec ce système du coup de la greffe, parce que c'est vrai que du coup, il y a pas de limite justement. Donc oui, je pense que maintenant, il y a quasiment tout ce qu'on peut cultiver en arbre classique, et quasiment tout existe en miniature, sachant que par contre, c'est après, évidemment, il n'y a pas tout l'éventail des hybrides ou des cultivars ou des types vraiment, mais la variété d'arbres fruitiers de manière générale, oui, je pense qu'il y a à peu près tout.
Tu jardines aussi sur un climat quand même particulier, même si c'est pas forcément aussi froid qu'on peut l'imaginer. Donc, ça n'a pas été très beau cette année, mais je pense que c'est partout, même en France. Mais par contre, les fruitiers, c'est vrai, ont la réputation d'être plutôt des arbres du sud, voire même du sud-est, et de la chaleur, du soleil. Toi, tu vois une différence ou vraiment tu y vas, tu testes en fonction de la température chez toi ?
Oui, alors c'est clair que c'est quand même. Je teste toujours. Hein, moi, je me dis toujours bon, on verra, mais c'est vrai quand même que on va pas se mentir, on n'obtient pas. Ça fonctionne pas aussi bien dans le climat d'Amsterdam, qui effectivement est pas aussi froid qu'on peut le penser. La question, en fait, je pense ici, c'est c'est pas tant, par exemple, qu'on ait un hiver très froid ou je sais pas quoi. Les hivers sont plutôt doux, finalement, ici. C'est plutôt qu'ils sont très humides, donc il pleut beaucoup. Donc, c'est vrai que ça peut pas s'appliquer pas forcément, tu vois, aux plantes méditerranéennes, les plantes qui ont besoin vraiment d'un terreau très drainé, etc. Et donc, vraiment, cette humidité et le fait que l'été n'est pas très chaud, quoi. Les fruits du soleil de type, je sais pas, les pêches, les abricots, etc., ici, c'est quand même difficile à obtenir. Quand on a un climat comme ça un peu moins favorable, on peut tester, mais c'est vrai qu'il faut adapter. Déjà, d'une part, je pense, ses choix de variétés. Par exemple, on peut préférer il y a des variétés qui sont plus précoces que d'autres, par exemple. Généralement, c'est ce que j'essaie d'avoir, c'est-à-dire des arbustes qui vont fructifier plutôt tôt dans la saison. Parce qu'en fait, comme la saison est très courte, justement, on ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose qui commence à fructifier au mois d'août, parce qu'il n'y a déjà plus assez de chaleur, c'est fini, quoi. Donc, voilà, d'une part ça, et puis après, il faut aussi, je pense, adapter ses attentes. Voilà, c'est... entre justement ce climat frais, plus le fait qu'en plus, on cultive en pot, c'est sûr que ça restreint quand même... On n'a pas des énormes récoltes. Et déjà, les récoltes ne sont même pas assurées chaque année, parce qu'il peut y avoir en plus des problèmes. Par exemple, ici, mon figuier, par exemple, il fructifie chaque année, mais il ne fait pas assez chaud pour que les figues arrivent à maturité. Donc, je reste toujours avec des figues vertes. Idem, par exemple, pour mes agrumes, j'en ai plein qui n'arrivent pas vraiment à maturité. Donc, je finis par devoir les enlever. Ils sont restés tout petits ou ils sont restés verts, par exemple. Donc, voilà, la seule chose... Enfin, moi, j'essaye de voir ça positivement. En fait, je fais avec. Donc, par exemple, tu vois, pour les figues, cette année, j'ai recherché un peu comment faire et je vais les récolter vertes et puis je vais les confire. On peut faire des sortes de confits de figues vertes, un peu comme des tomates vertes, à l'oriental, comme ça, on peut les laisser dans du sirop, etc. Et on peut les consommer comme ça. Après, pour les petits agrumes pas mûrs, je les utilise aussi. J'utilise l'écorce pour faire un sucre parfumé, par exemple. On peut les faire, macérer dans du vinaigre pour parfumer. Enfin, tu vois, j'essaie vraiment d'utiliser ce que j'arrive à obtenir. En tout cas, c'est pas forcément... Voilà, la salade de fruits, c'est pas toujours vraiment... Il faut pas avoir des attentes trop hautes, mais tu vois, j'ai quand même des résultats. J'arrive à récolter certaines choses et voilà. Mais c'est juste, c'est sûr que c'est moins favorable, quoi. Donc, faut pas s'attendre à des choses incroyables.
C'est un peu comme au potager, hein. Si on cultive dans un climat moins chaud, il faut plutôt du précoce et évidemment éviter de penser ramasser des kilos et des kilos de légumes, quoi.
C'est sûr que c'est pas l'autosuffisance pour demain, quoi, mais ça n'enlève pas au plaisir. Voilà, quand on arrive à obtenir quelque chose, c'est quand même chouette.
Complètement. Est-ce que tu aurais une variété ou un type de fritier à recommander sur quelqu'un qui commence vraiment, qui est donc en balcon, peu importe, on va dire, le climat, mais qui du coup n'a jamais trop cultivé d'arbres fritiers?
Peut-être, à part le fraisier qui est effectivement est un classique, je pense qu'effectivement il n'y a pas beaucoup besoin de soins, c'est facile, ça pousse très vite, etc. Donc ça, c'est sûr que tout le monde peut s'y essayer, mais je pense que peut-être plutôt un type plante grimpante, ça peut être chouette de tester le framboisier. Je trouve que c'est aussi une plante très peu exigeante, vraiment, c'est vraiment un peu comme une ronce, quoi, ça se débrouille tout seul, quoi. Donc vraiment ça pousse tout seul, ça survit bien à l'hiver, ça repart au printemps suivant, il n'y a presque aucun soin à apporter, donc pour des débutants, je pense que c'est vraiment assez approprié. Et les framboises, c'est hyper chouette aussi à obtenir et à récolter. Et si vraiment on veut plutôt une sorte d'arbuste, après ça dépend aussi un peu du climat, mais disons que si on n'est pas vraiment en plein sud, etc., peut-être qu'une variété qui soit bien rustique, qui soit assez résistante aux maladies, qui est pas forcément qui soit pas tout un peu, enfin pas toute faiblichonne dans un climat un peu plus frais, c'est idéal. Donc peut-être effectivement genre un pommier ou un poirier, notamment le pommier, je pense c'est un petit peu moins exigeant en termes de substrat, et ça, je pense que ça pousse bien à peu près partout, et pour le coup les pommiers, ils ont pas souvent des maladies, ils sont assez solide, quoi. Donc je pense que ça peut être pas mal si on veut vraiment se lancer dans un petit arbre.
Ouais, c'est déjà bien. Et petite question du coup urbain, puisque donc t'es en ville, hein, t'es dans une grande ville, est-ce qu'il y a des considérations à prendre pour tout ce qui est pollinisation ou même pollution de l'air? Est-ce que tu nettoies plus tes fruits? Est-ce que, bon, pollinisation, tu vas me dire que tu plantes plein de fleurs, je vous invite à aller voir sur Instagram du coup toutes les fleurs qu'elle installe sur son balcon. Donc je pense qu'on est pas mal en pollinisation, mais
C'est sûr que c'est vrai que je pense que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, surtout si on fait un achat comme ça un peu spontané en jardinerie, on se dit « Ah, je vais prendre un pommier ou je vais prendre je ne sais pas quoi ». Et on ne pense pas forcément, même si c'est des variétés auto-fertiles souvent, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir plusieurs plants de la même variété pour obtenir des fruits. Il faut quand même des insectes, enfin il faut quand même que les fleurs soient pollinisées, effectivement, sinon on n'aura pas de fruits. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, que tout le monde sait pas forcément, et c'est vrai que si on n'a rien pour attirer les pollinisateurs, ils vont pas forcément venir, et d'autant plus si c'est pas vraiment une espèce locale. Tu vois, par exemple, moi, quand j'avais la première année où j'ai eu mon pêcher, par exemple, et aussi la première année où j'ai eu mes agrumes, il y avait, bon, pour le coup, j'avais des abeilles, mais elles n'allaient pas du tout visiter ces espèces-là. Elles ne connaissaient pas, quoi. Les abeilles d'Amsterdam, ce n'est pas leur truc, quoi. Donc je pense que, voilà, il faut quand même prendre en compte qu'il y a besoin de faire ça. Sinon, ce n'est pas grave. On peut polliniser à la main, en fait. Moi, c'est ce que je faisais les premières années. Donc ça, c'est vrai, c'est un geste à apprendre, mais c'est vraiment très simple. On prend un petit pinceau ou un petit coton-tige et on passe d'une fleur à l'autre, et juste pour passer le pollen d'une fleur à l'autre. C'est très simple et ça permet du coup d'obtenir quand même des fruits. D'ailleurs, moi, je le fais parfois, même si j'ai vu que ça avait l'air d'être pollinisé, je le fais juste au cas où, parce que comme ça, je suis sûre. Et après, en termes de pollution, je pense... Enfin, j'avais entendu... je sais plus où j'avais entendu ça, mais qu'en fait, il y avait eu des études sur le fait que... notamment sur les... Alors moi, je suis sur un rooftop. Après, je ne suis pas très haut. Je pense qu'on est au quatrième... La terrasse est au quatrième étage, sur le toit du quatrième étage, je crois. Mais je sais qu'en fait, en ville, la pollution reste complètement à ras du... Enfin, en bas, elle reste vraiment au niveau du sol. Et elle ne monte pas dans l'air. Du coup, à partir du moment où on est sur un balcon, en hauteur, etc., les niveaux de pollution sont très bas. Je sais qu'il y avait eu des études comme ça sur les toits de Paris. Je crois que c'était pour un potager. Ils avaient testé du coup les légumes obtenus et ils n'étaient pas du tout pollués, quoi. Donc je pense que de manière générale, c'est pas un énorme risque. Moi, en tout cas, c'est pas quelque chose qui me stresse particulièrement. J'ai l'impression que c'est plus important d'avoir un bon substrat organique, d'utiliser un engrais organique, etc., que de s'inquiéter pour la pollution. J'ai pas l'impression que ce soit très important.
Alors, on va rentrer dans les conseils pratico-pratiques, comme on dit chez Vert Magazine, puisque c'est quand même ce qui intéresse les gens. Donc là, on est encore presque à l'été, toute fin du printemps, presque à l'été, ben on sera à l'été même quand cet épisode sortira. On va s'acheter son petit arbre fruitier. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on prend? Alors, on a eu beaucoup de questions sur la taille des pots. Généralement aussi, je pense que les gens ont une image vraiment de pots immenses. Et voilà, est-ce qu'il faut une terre particulière? Est-ce qu'il faut du paillage? Est-ce qu'il faut... Voilà, comment tu arroses, etc., quoi.
Alors, du coup, moi, je partage mon expérience. Après, il y a peut-être d'autres façons de faire. Mais moi, pour mes arbustes, donc tout ce qui est arbustes nains, donc c'est vraiment des arbustes qui peuvent être... Alors, j'ai quelques agrumes qui sont vraiment très petits, qui doivent faire peut-être 30 cm de haut. Mais j'ai aussi par exemple, mon pommier, c'est peut-être plutôt... on doit être proche de 81 mètres de haut maximum. Pour ce genre d'arbuste un petit peu plus grand, je prends des pots qui sont... Il ne faut pas un pot minuscule, c'est sûr, parce que sinon, il faudra le rempoter rapidement. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais je prends généralement des pots d'environ, je dirais, peut-être... 35-40 cm de diamètre minimum, après pas beaucoup plus grand que ça, et quand même assez profond, peut-être, peut-être 50-60 cm de profondeur. Donc c'est quand même, ça prend pas tant de place que ça, c'est raisonnable. Je pense qu'on peut tenter dans des pots un peu plus petits. Bon, après, il risque d'être plus souvent assoiffé. Bon, c'est peut-être un petit peu moins idéal, mais ça, à mon avis, ça se tente. Mais voilà, je dirais à peu près 40 cm sur 60, ça me paraît pas mal. Pour le substrat, généralement, pour produire des fruits, c'est sûr qu'il faut beaucoup de nutriments. Enfin, c'est des plantes qui ont besoin d'avoir beaucoup de nutrition. Donc, généralement, j'essaye d'utiliser... Alors, pour les plantes méditerranéennes de type agrumes ou figuiers, pour le coup, il y a des terreaux particuliers parce que c'est vrai qu'elles ont besoin d'un drainage particulier, une acidité particulière, etc. Donc, on peut utiliser directement ce genre de terreau si on en trouve en jardinerie. Ça existe en bio. Sinon, moi, ce que je fais, c'est que généralement, j'utilise un terreau pour les autres arbres fruitiers. J'utilise un terreau de base bio que j'enrichis énormément. Je rajoute... Alors cette année, par exemple, j'ai un bokashi, un compost d'appartement, donc j'utilise mon petit compost, je le mélange là-dedans. Et généralement, je rajoute aussi du fumier en granulé aussi, par exemple. Vraiment, j'en mets beaucoup parce que c'est vraiment des amendements organiques. On ne va pas brûler les racines avec ça, il n'y a pas vraiment de risque. Et je sais que comme ça leur dure vraiment un peu toute la saison. Et... dans certains cas, par exemple pour mes fraisiers, je continue même tout au fil de la saison de leur ajouter aussi de l'engrais pour être sûr qu'ils aient vraiment beaucoup de nutrition. Toujours en engrais organique bio, pour pas faire. C'est pas de donner des coups de boost un peu. C'est vraiment juste de continuer à nourrir au fil du temps. Donc ça, je pense que c'est très important. Un terreau de qualité. Ouais, un terreau vraiment qualitatif et très riche. Il faut que ça reste drainant, évidemment, parce que sinon, en hiver, c'est problématique. Mais voilà. Et puis voilà, quand on installe son arbuste, surtout bien arrosé au départ et même un peu tout le temps, parce qu'en pot, s'il ne pleut pas, il faut toujours arroser. Mais sachant que j'aurais tendance à dire que les arrosages, c'est mieux que ce soit profond et généreux plutôt que des petits arrosages de temps en temps. Parce que c'est vrai que on a vraiment besoin que la plante... approfondissent ses racines, et sinon tout va rester en surface et pour le coup elle va avoir soif tout le temps, et notamment pour les fruits il faut vraiment éviter les déshydratations constantes parce que sinon les fruits ont tendance à sécher et tomber, ce serait vraiment dommage. Donc voilà, donc pour ça je fais des gros arrosages, et effectivement le paillage pour moi c'est indispensable. J'en mets sur absolument dans tous mes pots d'arbres fruitiers. J'utilise des écorces ou des choses comme ça justement pour maintenir un peu en été parce qu'il fait très chaud sur ma terrasse. Et voilà, et installer le pot dans un endroit aussi lumineux et ensoleillé que possible aussi, ça c'est sûr que, tu le disais tout à l'heure, tous les arbres fruitiers ont besoin de soleil, c'est sûr, donc le maximum que vous puissiez leur donner, c'est apprécié.
Ok, est-ce que tu as eu des mésaventures, ou est-ce que depuis tu as appris des gestes un peu particuliers? On a parlé de la pollinisation du coup, mais on sait que les arbres fruitiers peuvent être quand même plus sensibles, ou en tout cas peuvent apporter des maladies qu'on connaît peut-être moins avec les légumes du potager. Il y a un paquet qui peuvent arriver aussi au potager, quand même.
Oui,
mais voilà, est-ce que tu as eu affaire à des maladies un peu particulières, ou plutôt des insectes en particulier?
Alors, j'ai eu globalement quand même beaucoup de chance, parce que j'ai quasiment, à part un, je n'ai jamais eu aucune maladie sur aucun de mes arbres fruitiers. Je pense vraiment que l'idée de leur donner un substrat très, très riche aide, parce que du coup, ils sont plus forts, etc. J'ai peut-être aussi un petit peu moins d'insectes, de parasites, etc. en étant sur un toit comme ça en hauteur, peut-être. Ça ne m'empêche pas d'avoir des pucerons et compagnie, ça je peux te le dire. Mais bon, j'ai peut-être quand même un petit peu moins de problèmes sur ce côté-là. La seule chose contre laquelle, pour le coup, je n'ai pas vraiment réussi à lutter, et là je pense que je suis en échec, c'est sur mon péché. Mais bon, c'est très, très commun. Il a tout de suite eu, dès la première année, il a commencé à avoir la clope du péché. Qui est un champignon qui se développe. En fait, ça se développe particulièrement quand on a des hivers vraiment humides, pluvieux, frais, etc. Ce qui, évidemment, est le cas ici. Et c'est pour ça que, voilà, certaines variétés à Amsterdam, c'est pas toujours idéal. Ça vaut le coup de tenter, hein, mais...
Donc ça arrive aussi, pour te dire, chez moi dans le sud, quand même, ça nous arrive aussi, hein, la cloque pêchée, c'est compliqué, quoi.
Et c'est très compliqué, pour le coup, parce que... La seule chose qu'on puisse faire, c'est des traitements préventifs de type bouillie bordelaise, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai pas envie d'utiliser parce que c'est très polluant. Ça pollue les sols, les eaux, etc. Donc c'est pas quelque chose que j'ai envie d'utiliser. Donc les seules choses que j'ai un peu tentées, c'est des trucs du genre décoction d'ail, etc. qui sont souvent préconisés contre les problèmes fongiques. Mais j'ai perdu, là je crois vraiment que j'ai perdu ma bataille parce qu'il est vraiment infesté, enfin vraiment la plupart des branches sont maintenant pleines de cloques et en plus je pense que ça l'a fragilisé parce que cet hiver on a eu une grosse vague de froid polaire, là, une semaine très très froide et quasiment toutes mes plantes sont sorties sans encombre sauf le pêcher qui a la moitié de ses branches qui ont gelé. Je crois qu'il est vraiment, il est devenu vraiment faiblichon là à cause de, bah il est malade quoi. Donc, mais à part ça, non, franchement, je trouve que c'est ce que je te disais avant. Je trouve que la culture des arbres fruitiers c'est pas difficile. Il n'y a pas vraiment de, à part oui la pollinisation, il faut y penser.
Est-ce que tu les tailles, hein? Ça se taille les arbres fruitiers, ouais.
Oui, je les taille. Je pense que c'est important, notamment si on veut vraiment. Si on veut les maintenir justement dans un pot, bah justement de genre 40-60 cm et qu'on veut pas éternellement devoir agrandir le pot, je pense que c'est bien de les tailler au début du printemps, à la reprise végétative. Je les taille toujours au moins un petit peu, pas une taille très sévère, mais un petit peu aussi pour leur redonner la forme, parce que parfois il y a une branche qui part d'un côté toute seule. Donc j'essaie de leur redonner une forme un peu plus esthétique et ça permet aussi voilà, de les maintenir un peu dans leur même format. Sachant que pour ça aussi, notamment si on veut rempoter ou si on veut simplement. Si le terreau est devenu un peu sec et vieux et qu'on veut le remplacer, ce qu'on peut faire aussi, c'est tailler un peu le chignon racinaire. Ça permet non seulement de faire repartir la plante un peu plus vite au printemps, enfin ça la rend plus vigoureuse, mais en plus, du coup, les racines et les branches, c'est un peu une sorte de miroir. En fait, en taillant les racines, on limite aussi un peu la croissance des branches. Donc, du coup, ça permet... C'est une technique un peu pour maintenir le côté nain.
Mais on peut le faire aussi sur les plantes de plants en potager. On le fait beaucoup moins, mais toutes les oignons, les poireaux, tout ça, tu peux tailler beaucoup les racines. C'est pareil, parce que les racines sont très longues après, et comme tu dis...
Ah oui, d'accord. C'est marrant, je ne savais pas du tout. Ok,
bah okay, voilà. Ben on fera un autre épisode taille des fruitiers du coup au printemps avec Victoria.
Ah bah, très bonne idée.
Pour apprendre à tailler ces fruitiers. Bon, on va parler récolte quand même, parce que ce qui intéresse, même si on a bien compris qu'il ne fallait pas s'attendre à pouvoir se faire des salades de fruits tous les jours, raconte-nous un peu tes premières récoltes. Déjà, voilà, la sensation que c'est de récolter ses propres fruits sur son balcon à Amsterdam. Et est-ce que tu récoltes dès la première année? Est-ce qu'il y a certains arbres où il faut attendre beaucoup? Voilà, est-ce que tu en es niveau propre consommation de tes fruits?
Alors, moi, c'est vrai que la première récolte que j'ai eue, je m'en souviens encore, effectivement, et je pense que je m'en souviendrai longtemps, c'était mes fraisiers, les fameux fraisiers du balcon avec qui j'ai commencé. Et je me rappelle que j'étais... Et pourtant, ils étaient... parce que souvent, les fraisiers, la première année, la récolte n'est pas aussi bonne que les années suivantes. Donc, c'était, tu sais, vraiment des petites fraises un peu rachitiques comme ça. En plus, pour le coup, je les avais mis dans un endroit qui n'était pas hyper ensoleillé. Donc, bon, elles avaient fait ce qu'elles pouvaient. J'en avais genre 4 ou 5. Mais... J'avais goûté et ça, vraiment, ça avait un goût de bonbon. C'était tellement bon et je me suis dit, mais c'est incroyable que j'ai réussi à avoir des fruits comme ça de tellement délicieux. J'étais vraiment impressionnée et je pense que c'est ça aussi qui m'a motivée du coup à essayer d'avoir d'autres fruitiers parce que ça, c'est vrai que, enfin, c'est peut-être pas complètement rationnel, mais on a quand même toujours l'impression que ce qu'on cultive, c'est encore meilleur. Voilà. Mais donc ça, oui, voilà, ça c'était ma première récolte. Mais après, c'est vrai que pour la plupart, en fait, sur les arbres fruitiers nains, ils sont quand même globalement conçus, et c'est aussi l'un des rôles de la greffe, c'est que le pied sur lequel il est greffé est plus ancien, donc ça veut dire qu'en fait, l'arbre va fructifier rapidement. Par exemple, sur mes agrumes nains, quand je les ai eus, ils sont tout petits, je te dis, j'en ai un ou deux qui doivent mesurer 20-30 cm de haut, ils sont vraiment très petits, mais ils fructifient quand même, et quand je les ai eus, ils fructifiaient déjà. Pourquoi ? Parce que justement, il n'a pas fallu attendre je ne sais combien d'années avant d'avoir des fruits, parce que grâce à ce système de greffe, il fructifie beaucoup plus vite. Donc, pour ce genre de... Enfin, c'est assez pratique le côté arbre nain avec ça, mais c'est quand même pas automatique, je dirais. Par exemple, typiquement, mon poirier, par exemple, mon jeune poirier nain que j'ai seulement depuis cette année, du coup, il a pas fleuri cette année encore. Et je sais que c'est déjà arrivé, mon figuier aussi, la première année, il n'a pas donné de fruits, c'était à partir de la deuxième année. Donc même si c'est des plantes qui ont l'air plus ou moins matures ou qu'on les vend, souvent on les vend comme si on allait pouvoir avoir des fruits tout de suite, pas forcément, c'est normal. Disons que ce n'est pas anormal qu'il faille attendre peut-être un an, ça peut arriver. Même mon framboisier, ça m'a fait pareil, la première année, il n'avait rien et c'est cette année qu'il a commencé à donner, donc... il faut être disons que ça demande moins de patience que de vraiment tu vas commencer d'une petite graine et attendre 7 ans etc. Mais donc parfois ça peut être un an mais ça peut ne pas être automatique tout de suite. Donc voilà.
Et du coup, dernière question, une fois qu'on a récolté vient l'hiver et donc chez toi tu peux avoir des épisodes quand même assez froids, alors la plupart, si je dis pas de bêtises, quand même résistent assez bien au froid, évidemment tu l'as dit, l'humidité c'est plus difficile. Mais est-ce que ça résiste quand même au froid, très froid, au gel pendant très longtemps ? Tu fais quoi, toi ? Tu les laisses dehors ? Tu les protèges ?
Oui, alors effectivement, de manière générale, moi sur ma terrasse, j'ai presque que, enfin à part quelques annuels, mais j'ai presque que des plantes qui sont généralement rustiques jusqu'à moins 15, moins 20 degrés. Et c'est le cas de la plupart de mes fruitiers, notamment les fraisiers, le framboisier, le figuier, pommier, poirier, tout ça, ça résiste sans aucun problème. À l'hiver. Même du coup, le pêcher est censé résister aussi jusqu'à moins 15 bon, cette année. Je pense que c'est vraiment parce qu'il était malade qu'il a été plus faible. Mais vraiment, tout ça, normalement, il n'y a aucun souci. On le laisse dehors tout l'hiver. Il fait sa vie. Bon, il perd ses feuilles. Hein, mais du coup, et ça repart au printemps sans problème. Donc pour le coup, j'ai jamais. Pourtant, j'ai eu plusieurs. Depuis que je les ai, il y a eu au moins deux grosses vagues de froid comme ça, avec, tu vois, un ou deux, trois jours à. En dessous de moins 10 degrés, donc quand même très froid. C'est vrai qu'en pot, ça peut être plus délicat parce que, notamment s'il a plu avant et que le terreau est mouillé, évidemment, ça fait un gel très très fort, une pression très forte dans le pot, donc c'est pas idéal. Mais donc c'est vrai que si vraiment il commence à faire moins 10 pendant plusieurs jours, il faut quand même faire attention. Dans ce cas-là, je pense que le mieux, c'est d'entourer le pot avec, au moins avec une couverture, quelque chose pour l'isoler un petit peu. Mais je t'avoue que moi je le fais jamais. Vraiment, je laisse les plantes vivre leur vie et généralement, à part sur ce pêcher, il n'y a jamais eu aucun dégât, ils se débrouillent très bien. Donc voilà. La seule chose, c'est pour les agrumes. En revanche, ils sont censés être rustiques jusqu'à 5 degrés. C'est un peu pessimiste parce qu'en vrai, ils sont quand même beaucoup plus rustiques que ça, je trouve. Donc ce que j'ai fait au départ avec mes agrumes, c'est que et c'était ce qui était recommandé par la marque qui les vend, c'était que du coup, à partir du moment où les températures en journée étaient vraiment, disons, autour de un peu moins de 9 degrés, donc ça commençait à descendre à 7-8 degrés, là du coup, je commençais à les rentrer en fait. Je commençais parfois à les rentrer seulement la nuit, puis finalement je les rentrais pour tout l'automne et l'hiver, et je les ressortais après qu'au printemps, quand justement les températures revenaient autour de 9-10 degrés. Le truc, c'est que j'ai fait ça pendant 2 ans, et c'est quand même très dur pour ces pauvres arbustes, parce que évidemment on chauffe à l'intérieur, donc l'air est très sec, il n'y a pas assez de lumière probablement. Pourtant j'ai un appartement assez lumineux, mais évidemment c'est pas pareil que dehors. Du coup quand même ils souffraient pas mal. Donc la première année c'était seulement ils avaient perdu leurs feuilles, bon c'est typique, c'est pas très grave, mais bon c'est pas très esthétique. Mais la deuxième année j'ai carrément commencé à avoir, je les ai rentrés et genre 3 jours plus tard, ils avaient perdu la moitié de leurs feuilles et ils étaient remplis de pucerons, remplis de bestioles. Enfin, tu vois, vraiment, Ils n'étaient pas du tout contents. Et les parasites en avaient profité. Du coup, ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est que je les ai laissés dehors tout l'hiver. Mais voilà, encore une fois, l'hiver à Amsterdam n'est pas aussi froid qu'on le penserait. C'est très rare qu'on descende en dessous de 0 degré, en fait. Donc, ils étaient souvent quand même autour de 0,1 degré. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça ne les dérangeait pas du tout. Ils restaient là, donc ils avaient quand même perdu un petit peu leurs feuilles, mais ils restaient, sans problème. Et la seule chose que j'ai fait, c'est que s'il y avait un gel fort, par contre, si je voyais que ça descendait en dessous de moins 1, moins 1 pour une nuit, c'est pas très grave. Presque moins 2, c'est pas très grave non plus. Mais quand je voyais que ça descendait fort ou que ça descendait longtemps, je les rentrais au moins pour la nuit, parfois même pour la journée si c'était vraiment froid, mais je les rentrais vraiment juste temporairement et dès que ça remontait à 0, 1, hop, je les remettais dehors. Et du coup, ils ont passé tout l'hiver comme ça. Maintenant, j'ai aussi une serre sur ma terrasse, donc ils ont même terminé la saison dans la serre. Pour le coup, ils étaient un peu plus protégés. Mais en fait, voilà, finalement, je pense que si on n'a pas des énormes gels, c'est mieux. En fait, ils sont plus résistants que ce qu'on pourrait croire. Ils sont plus heureux comme ça, tu vois. Ils ont pas, du coup, après, ils n'ont plus jamais eu de maladie. Là, ça, c'est bien reparti. Le feuillage a repoussé, ils fleurissent.
Peut-être qu'il vaut mieux en fait les laisser dehors, quitte à les recouvrir un peu, voile d'hivernage. Voilà. Seulement, on a des gros épisodes de gel que de les bousculer à l'intérieur.
Exactement. Donc, finalement, l'idée de les rentrer, c'est pas forcément une bonne idée, je pense. Il vaut mieux les laisser.
Bon, mais super. Écoute, bien échangé sur ce sujet. Est-ce que tu as une petite recommandation pour nous? Alors, un livre, un documentaire, un film, tout ce que tu veux, évidemment, autour des fruitiers.
Mais écoute, moi, il y a un livre que j'adore, qui n'est pas très connu, je crois. Je ne sais même pas s'il est encore vraiment édité, mais je pense qu'il doit se trouver, ou au moins en tout cas en seconde main. C'est un livre qui s'appelle Le potager des saveurs de James Wang aux éditions Larousse. Et c'est vraiment, je pense que notamment, ça a été l'une de mes inspirations principales pour cultiver des fruitiers et notamment des variétés originales. Parce qu'en fait, c'est un livre qui est vraiment dédié... donc, c'est Le potager, mais en vrai, il parle aussi, par exemple, de fraisiers, framboisiers. Enfin, il y a différentes... Il y a poiriers, pommiers. Enfin, il y a vraiment de tout. C'est pas seulement c'est potager et fruitiers. Et c'est un livre super où l'auteur, d'une part, donne des conseils, en fait, pour obtenir le maximum de saveurs dans nos récoltes. Donc, j'ai appris comme ça plein de choses. Par exemple, le fait que les fraisiers, souvent beaucoup de fruitiers, en fait, et même de plantes potagères, il ne faut pas trop les arroser parce qu'effectivement, sinon, ils se gorgent d'eau et en fait, on perd en parfum, quoi. Alors que c'est une plante qui est légèrement, pas beaucoup, mais légèrement stressée, léger de stress hydrique. En fait, elle va réagir en faisant des fruits très, très riches en nutriments, très goûteux. Et du coup, c'est intéressant pour nous. Il y a plein d'autres petites astuces comme ça, des trucs incroyables du genre que si tu mets... il avait testé des trucs. Si tu mets, par exemple, tu fais une vaporisation sur tes fraisiers avec de l'eau où tu as dilué un peu d'aspirine, par exemple, ça les rend plus rouges, plus sucrés, etc. Et apparemment, c'est même prouvé scientifiquement. Enfin, toutes des sortes de petites astuces comme ça pour avoir des récoltes savoureuses. Et en plus, ils partagent dans tout le livre, en fait, ces recommandations de variétés originales et de variétés les plus savoureuses d'après lui. Donc, j'ai découvert comme ça des variétés de tomates, mais aussi des variétés de fraises. Par exemple, c'est lui qui conseillait la variété Friendberry que j'ai achetée. Tu vois, je suis un petit peu ses conseils. Et c'est hyper chouette. Il y a aussi des petites recettes après pour utiliser tes récoltes, etc. C'est vraiment, je trouve, c'est très inspirant et ça donne plein d'idées de si on aime les variétés originales ou si on a vraiment envie d'avoir de goûter des choses intéressantes. Et je trouve que honnêtement, c'est l'un des avantages de cultiver ses propres fruitiers, c'est de pouvoir goûter des choses qu'on ne pourrait pas goûter dans le commerce, parce qu'il y a, je veux dire, évidemment, dans le commerce en général, c'est des variétés assez standards. Il n'y a pas beaucoup de, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, fraisier ananas, moi, j'avais jamais goûté ça avant d'en cultiver moi-même, alors que c'est super bon. il y a ce côté où on peut justement découvrir des variétés, découvrir des saveurs, des goûts qu'on n'aurait pas pu connaître autrement. Donc, moi, en tout cas, c'est vraiment l'une de mes motivations pour cultiver mes propres fruits. C'est ça, quoi. Donc, j'adore ce livre. Je trouve qu'il y a plein de bonnes idées.
On mettra, évidemment, les liens et tout ça dans la description. Vous avez l'habitude maintenant. Et notre dernière petite question, récurrente. Est-ce que tu as un conseil pour voir la vie en vert?
Je pense que mon conseil, ce serait peut-être de commencer par ne pas se limiter en pensant qu'on n'a pas la main verte. C'est vraiment un truc, et je sais que toi, tu es dans le même esprit, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve trop dommage. J'ai constamment des gens qui me disent « Ah, oh, mais t'as vraiment la main verte. Ah, oh, moi, j'ai vraiment pas la main verte, etc. » Pour voir la vie en vert, je pense qu'il faut déjà, il faut s'entourer des plantes qu'on aime, il faut se lancer sans avoir peur. Il y a plein de choses qui sont déjà, il y a plein de choses, même en fruitier d'ailleurs, qui sont accessibles à tout le monde, même aux débutants. Ça demande juste effectivement de se renseigner un petit peu, mais je veux dire, à l'heure actuelle, il y a tellement de chouettes ressources partout. Il y a des chouettes livres, notamment les tiens, Julie. Il y a des comptes Instagram, des chaînes YouTube qui expliquent vraiment plein de choses, des blogs qui expliquent plein de choses sur comment cultiver ces arbres fruitiers ou son potager, etc. Donc, on peut apprendre assez facilement. Après, tout ne réussit pas forcément du premier coup, mais bon, voilà, moi, je suis censée avoir la main verte, et ben, j'ai aussi des échecs, je veux dire, ça arrive à tout le monde. Mais dans tous les cas, je pense que le fait d'essayer, de se lancer et d'apprendre, ben, on en apprend beaucoup sur la nature de manière générale, mais on en apprend aussi beaucoup sur soi. Enfin, c'est quelque chose, je trouve que ça apporte un ancrage qui rend vraiment heureux, donc ça vaut le coup de pas s'auto-limiter en se disant mais non, moi je suis nulle, etc. C'est vraiment juste une question d'apprentissage, d'expérience, d'expérimentation, et puis voilà. Donc la vie en vert, j'ai l'impression que c'est un peu comme la vie en rose, mais en version végétale, et c'est vrai qu'il y a cette joie de jardiner. Je trouve que ce serait dommage de s'en priver en se disant juste qu'on n'y connaît rien ou qu'on est nul. C'est juste, il faut juste apprendre un petit peu.
Ouais, mais on est bien d'accord. Et encore une fois, je vous renvoie du coup à son compte Instagram pour avoir envie d'avoir un balcon aussi végétalisé, parce que évidemment, en milieu urbain, ça fait du bien, je pense, de sortir sur son balcon et d'avoir des fleurs, des fruits, des légumes.
Ouais, moi, c'est mon petit paradis.
Ouais, complètement. Mais merci beaucoup à toi. À très vite dans Vert Magazine, du coup.
Oui.
Alors, le numéro d'été que tu n'as pas encore reçu, mais que peut-être tu auras reçu depuis.
Et
le numéro d'automne, on ne vous dit pas, évidemment.
Ah oui, on ne vous dit pas, mais ça va être sympa.
À bientôt, Victoria.
À bientôt, merci beaucoup.
Cette interview est terminée, mais restez en ligne. Maintenant, place au mémo de Vert Magazine avec tous nos conseils pour mettre facilement en pratique le sujet découvert dans l'interview du jour.
Allez-y, c'est parti, on adopte un arbre fruitier sur le balcon. Notez que la période la plus favorable est située entre l'automne et le printemps, mais rien ne vous empêche de tenter à d'autres saisons. On commence par choisir la bonne variété. Comme Victoria, on mise sur des variétés naines pour éviter de se laisser déborder dans notre petit espace. Il en existe de plus en plus, c'est l'occasion d'être original. Avantage, ils dépassent rarement un mètre de hauteur et sont auto-fertiles. Vous aurez donc des fruits, même avec un seul plant. En version naine, on trouve désormais facilement tous les agrumes, des abricotiers, des cerisiers, des pêchers ou encore des poiriers. Pour les climats chauds ou si votre balcon a une orientation bien ensoleillée, on fonce sur les agrumes et tous les fruits du soleil comme les pêchers ou les abricotiers. Pour les climats plus frais ou si votre balcon est ombragé, on mise surtout sur les fruits rouges, groseilliers, myrtilliers, framboisiers, etc. Si vous souhaitez vraiment avoir un citronnier par exemple, choisissez alors plutôt des variétés précoces. Vous êtes débutant ? Retenez alors que le plus simple sont les framboisiers, les pommiers nains ou encore les cerisiers nains. Et notez bien les idées de Victoria dans cet épisode pour utiliser les fruits qui n'arriveraient pas à maturité. Vous pouvez en faire des fruits confits, du sucre aromatisé, etc. Ensuite, il vous faut un pot, de préférence en terre cuite pour limiter les excès d'humidité. Pour la dimension, cela dépend de la taille de votre fruitier évidemment, mais 40 cm de diamètre, c'est une bonne base. Pour le terreau, vous en trouverez des spécifiques aux fruitiers, notamment pour les agrumes. Sinon, enrichissez un terreau classique avec beaucoup de compost mûr. Évidemment, on n'oublie pas d'attirer les insectes pollinisateurs. Pensez à installer des fleurs mellifères et pourquoi pas un hôtel à insectes. Côté entretien, vous l'avez vu, c'est plutôt simple. Veillez à un arrosage régulier et généreux. En pot, la terre se dessèche beaucoup plus rapidement. Vous pouvez aussi tailler votre fruitier lors de la plantation à 15-20 cm de la terre. Par la suite, vous pourrez faire des tailles plus légères, uniquement pour améliorer la forme de votre fruitier et limiter sa hauteur. Il faudra tout de même penser à le rempoter tous les 3 ans environ et tailler un peu les racines à cette occasion. En été, on n'oublie pas le paillage et on rajoute de l'engrais organique pour fruitiers en cours de saison. Et en hiver, vous pouvez tout à fait faire comme Victoria et laisser vos fruitiers en extérieur. En réalité, ils craignent bien plus nos intérieurs surchauffés. Mais on vous conseille quand même d'avoir du voile d'hivernage pour protéger les agrumes notamment en cas de forte gelée. Voilà, vous savez tout pour installer des fruits à côté de vos légumes et de vos fleurs sur votre balcon. La Voix Verte, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations concernant l'épisode dans la barre de description et sur notre site www.vermagazine.com, rubrique podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser un avis positif sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous souhaitez mettre un peu plus de vert dans votre vie, on ne peut que vous conseiller de vous abonner à Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers. Tous les numéros et les abonnements sont disponibles sur Vert Magazine, veirmagazine.com. Merci et à bientôt.